Alors je me suis dit comment commencer et surtout comment déminer peut-être le terrain par rapport au sujet dont je vais parler. Bon, la première chose que je vous dirais, c'est un homme un jour qui était un junkie. Vous savez ce que c'est un junkie ? Quelqu'un qui se drogue, qui rencontre un chrétien un peu arrogant, un peu sûr de lui, et qui lui dit, tu sais, moi je me shoote peut-être à l'héros, mais toi, tu te shootes à l'ego. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ce matin, si vous voyez que moi, Denis, je me shoote à l'ego, faites comme des frères et sœurs, dites-le moi. Avant que je sois complètement, accro. Non, parce que là, je vais vous parler d'un certain nombre de choses et j'aimerais bien qu'à la limite, à un moment ou à un autre, ça soit un peu interactif. Je vais vous parler d'un sujet que j'appellerais protection et sécurité dans la marche de l'esprit, quelles sont les promesses bibliques. Et je vais commencer par quelque chose, c'est de vous citer quelqu'un que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, c'est un juif allemand du 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, il n'y en a pas beaucoup qui doivent lire des juifs allemands du début, des écrivains juifs allemands du début du 19e siècle, donc c'est pour ça que je ne prends pas de risque. C'est un gars qui s'appelle Ludwig Börne, B-O-2-R-N-E, et c'est un homme qui a écrit beaucoup de choses assez sensées, mais vous allez voir, il a écrit « Se défaire d'une illusion nous rend plus sages que de détenir la vérité ». Mais vous voyez, la chance que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous, on a non seulement la possibilité de se défaire des illusions, mais en plus, on a la vérité. Et ça, c'est bien plus. Ça prouve que c'était vraiment un homme qui recherchait. D'ailleurs, il s'est converti, il est devenu protestant, à peu près aux deux tiers de sa vie. Mais il lui manquait quand même une partie. Il n'avait pas vu que la vérité, elle était dans la parole de Dieu. Et la première chose dont je veux témoigner, c'est à propos de ce petit livre, parce que vous savez, je fais un petit peu comme Anne et comme Fer Werner. Je dis que c'est quand même sympa quand on peut amener des petites choses. Lui, il avait amené une hache. Bon, je n'ai pas de hache à la maison, mais je peux vous amener quelque chose. C'est ce petit livret, qui maintenant est un joli petit livret en cuir qui a été fait en Afrique. Bon, il n'a pas coûté très cher, mais il est très joli. Et qui était avant, j'utilisais avant des petits carnets, voire des petits bouts de papier à droite à gauche qui étaient dans ma Bible. Et en fait, ce carnet, si j'avais une illustration à faire, ça serait, vous savez, ces Mexicains qui ont en travers, en bandoulière, comme ça, des cartouchières. Vous voyez un peu ? Grand chapeau, et puis des cartouchières avec, bien sûr, les coltes aux côtés. Et en fait, ça me sert de cartouchière. Pourquoi ? Parce que j'ai une bonne mémoire, mais à certains moments, dans des combats durs, il faut que j'ai un endroit où un arsenal où je puisse mettre mes armes. Alors, comment ça, en tant que chrétien, on a besoin d'armes ? Vous allez voir que oui, on a besoin d'armes en tant que chrétien, parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans l'approche qu'a le Seigneur par rapport à nos demandes, par rapport à nos combats. En fait, j'ai découvert il y a 30 ans une nouvelle raison de lire ma Bible. Chaque jour, je pouvais confronter à l'Écriture quelques situations de ma vie. Un problème, un sujet d'intercession, une décision à prendre, un besoin personnel ou celui d'autrui. Et conscient de ça, je lisais jusqu'à ce que Jésus me parle au travers de mots illuminé par le Saint-Esprit dans la parole. Et ça a commencé comme ça. Et ce fut le début d'une expérience qui changea ma vie. Tel jour, par exemple, un verset lumière, comme je les appelle, m'adressait des paroles d'encouragement. Tel autre, des paroles destinées à me reprendre. Et je ne manquerai pas de vous témoigner sur quelques exemples qui ont été pour moi vraiment importants. Ces paroles pouvaient aussi bien me donner une instruction particulière, exprimer tout simplement l'amour de Dieu. Mais ces versets avaient tous un point commun. Et c'est ce qui a fait que j'ai continué à chercher dans la Bible la vérité, il tapait toujours incroyablement dans le mille. Il parlait toujours comme le ferait une personne qui me connaîtrait à fond, qui serait au courant de mon problème, qui saisirait ma situation dans tous ses détails bien plus clairement encore que moi-même. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, je vais bien sûr commencer par des choses un peu futiles, mais il y a eu vraiment des choses qui ont concerné des vrais problèmes que j'avais. Ça coïncidait il y a une trentaine d'années avec, je dirais, la phase la plus importante de ma vie professionnelle. Et dans le monde du travail, je dirais qu'on n'est pas au monde des bisounours, vous le savez. Pour ceux qui travaillent, c'est des fois à couteau tiré. J'avais, c'est vrai, au début de ma vie chrétienne, encore des envies de vengeance quand des gens se comportaient très mal avec moi dans le milieu professionnel. Et le Seigneur, je criais et je me rendais compte que ce n'était pas juste, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et un jour, je suis tombé sur cette parole, il y en aurait plein dans la Bible là-dessus. Ce passage, c'est dans Proverbe 20 au verset 22. « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te sauvera. » Et j'ai immédiatement appliqué ça. Chaque fois que j'avais envie de me venger, je disais, Seigneur, au début je disais, Seigneur, c'est toi qui me vengeras. Puis après j'ai dit, Seigneur, j'espère en toi. Je ne sais pas ce que tu feras, peut-être que tu ne me vengeras pas, mais j'espère en toi. Et puis j'ai eu des problèmes aussi de maîtrise de moi-même. Et j'ai commencé à collectionner pas mal de passages qui chaque fois m'illuminaient parce que je cherchais pourquoi, comment j'arriverais à sortir de ces problèmes de maîtrise de moi-même. Par exemple, c'était la colère que j'avais héritée de mon père, qui était un homme colérique. Et à propos de la colère, j'avais le proverbe 25-15. Alors au début, j'étais pas mal dans les proverbes, puis après, c'est dans toute la Bible que ça a explosé littéralement. Donc 25-15... Par la lenteur à la colère, on peut fléchir un prince et une langue douce peut briser des os. Mais il y a eu un moment où il y a eu vraiment quelque chose de beaucoup plus inattendu, parce que le Seigneur ne me parlait pas que suite à des demandes, mais des fois il me parlait pour me reprendre. Et quand il vous reprend, vous n'allez pas lui demander avant, tiens, est-ce que tu ne pourrais pas me reprendre sur quelque chose ? Et j'avais une manie qui a été très longue à partir, c'était en fait de raconter un peu n'importe quoi, souvent c'était méchant, à quelqu'un, puis de dire après, non, c'était une blague. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer ce genre de comportement ? Et ça, c'était tout à fait aussi un héritage paternel, parce que mon père était capable de se brouiller avec des tas de gens uniquement en leur disant des choses abominables, puis après il disait, non, c'était juste pour rire. Et un jour, je tombe sur ce passage. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « c'était pour plaisanter ». Vous connaissiez ce passage ? Ben, ça m'a fait un sacré coup. Et immédiatement, je me suis surveillé et je me suis rendu compte que j'avais de temps en temps cette tendance à... Et même, elle était très fréquente. Et je ne me rendais pas compte que je blessais les autres. Et puis, il y a eu aussi des moments où c'était un secours, comme par exemple à propos de l'abandon. Le psaume 9 était le passage préféré. Certains, je les savais par cœur, d'autres, c'était simplement, je connaissais la référence. J'ai eu toute une période où je me sentais très abandonné. Et il y a eu le passage sur le psaume 9, au verset 11. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Mais je suis sûr qu'il y en aurait plein. Mais je poursuivais ma lecture jusqu'à ce que je trouve une consolation. Et souvent, pendant la période, il me fallait plusieurs jours et je trouvais cette consolation. Je partageais aussi, bien sûr, quelque chose qui est assez banal, c'est une irritation contre ceux qui font le mal. Et ça, vous connaissez le passage du psaume 37, hein, qui... pour ceux qui s'irritent contre ceux qui font le mal. C'est quelque chose qui est... C'est un passage, d'ailleurs, un psaume qui est beaucoup plus connu. C'est quelque chose d'assez banal. Au psaume 37, il est dit « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et puis bien sûr, j'ai eu dans cette période-là énormément de passages sur les soucis. J'avais des soucis parce que tout simplement dans le monde professionnel, on a souvent des responsabilités qui nous écrasent. Et je me rappelle très bien de ce passage qui était dans Luc, qui est dans Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Donc Dieu mettait l'ivrognerie au même rang que les soucis de la vie. C'est ça, moi, qui m'a immédiatement... Donc, je veux dire que le Seigneur nous connaît tellement bien qu'il sait sur quoi il va pouvoir poser, si vous voulez, notre regard et notre attention. Donc, et je vous dirai plus tard, certains qui ont été beaucoup plus difficiles, mais qui ont été victorieux aussi. Donc, il y a plus que simplement, dans cette expérience qui a changé ma vie, il y a également quelque chose qui après, tout à coup, est venu, parce que dans certains combats, je me sentais, on va dire, quand même en défaite. Parce que, vous allez dire, mais à quoi ça sert alors de garder certains de ces passages comme des armes, puisque si c'est une consolation, c'est un peu comme la manne. La manne, vous la recevez le matin, mais vous ne pouviez pas la garder jusqu'au lendemain. Donc il y a des versets que je prenais comme des versets manne. Et puis il y a des versets qui étaient des versets force, c'est-à-dire dont je savais qu'ils allaient me servir et qu'ils étaient un pivot que le Seigneur me montrait pour continuer. Et puis, il y a une troisième sorte de versets, ceux que je vais mettre... J'appellerais ça, si vous voulez, les versets, projectiles, quoi, contre l'ennemi. Ceux-là, je vais les mettre dans mon petit carnet, parce que je sais que ceux-là, ils vont me servir dans un combat qui va durer. Et je m'appuie alors sur Ésaïe 54, au verset 17. J'ai plusieurs versions, parce qu'à certains moments, ce n'est pas dit de la même façon. Alors, ce passage, vous le connaissez aussi, « Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. » Ou « toute langue ». Dans certaines versions, il est dit, au lieu de « toute personne », »,« toute langue qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Et là, 99% des personnes qui lisent ça ne voient pas quelque chose. Quoi ? Je relis. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Qu'est-ce qu'on doit voir aussi là-dedans ? Il faut vraiment insister là-dessus, c'est toi qui la condamneras. Donc si vous continuez à crier à Dieu, « Seigneur, Seigneur, fais quelque chose », c'est à vous de faire quelque chose. Et si ça vous révolte, je dirais que c'est un peu, pour toutes les promesses bibliques, sauf une, celui de l'amour de Dieu, elle est conditionnelle. Même dans la distribution du pain, il est demandé d'amener les quelques provisions qui restaient. C'est lui qui fera le reste. Et ce que nous avons à faire, c'est à nous de condamner Alors là, on pourrait dire, mais attention, est-ce que moi je dois me battre, quoi ? Est-ce que je dois me venger ? Est-ce que je dois... Non. Alors je reviens un petit peu en arrière et à propos de cette découverte que j'ai faite et des débuts. Certains, et j'en fais partie, ont découvert qu'en ce qui les concerne, le secours de Dieu leur vient le plus sûrement au travers de sa parole, la Bible. Dieu peut intervenir de multiples façons et il ne manque pas de le faire, mais la plupart du temps, si vous voulez, la relation qu'on a avec Dieu, c'est un peu comme la relation avec une bien-aimée. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de ne pas répondre à des lettres d'amour, de dire, bon, ben, ok, je viens de recevoir le 5e email ou le, je sais pas, la 10e lettre parfumée, mais bon, très bien, je la range, je mets un petit nœud autour et je dis, ok, non, il y a un échange. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut ? Qui est cet échange ? Il veut qu'on réponde à sa lettre. Il veut que, finalement, ce qu'il nous dit, c'est la vérité. À partir du moment où on a choisi de se convertir, de faire le grand saut, il reste pour nous quelque chose de très important, c'est la marche par l'esprit. Et ça, il faut toute la vie. C'est pire que d'apprendre à danser, hein, pour ceux qui ont du mal pour ça. C'est quelque chose de compliqué. Mais de compliqué avec lequel on a un maître fabuleux. C'est souvent nous qui, avec notre propre chair, avons du mal. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est un peu une digression par rapport à ce que je voulais dire, mais quand on se convertit, finalement, on a une nouvelle nature. Il est dit dans la parole que on devient quelqu'un d'autre, en fait. On devient nous-mêmes avec une nouvelle nature. Bah, comparons cette nouvelle nature avec une nouvelle maison. Mais l'ancienne est toujours là. Ce qu'il nous faut, c'est déménager dans la nouvelle maison. Souvent, on déménage et puis on dit « Oui, mais bon, cette petite pièce-là, j'aimerais la garder pour moi dans l'ancienne et je vais revenir dans cette pièce de temps en temps. » Vous comprenez ? Donc, il faut vivre complètement dans cette nouvelle maison. Donc, cette découverte pour moi, elle a été progressive. J'étais enclin par ma formation à me méfier de toute approche magique des problèmes de la vie et de la foi. La parole, elle était dans ma tête, mais elle allait rarement plus bas. Et il a fallu que, au travers d'un certain nombre de soucis, et surtout de l'exemple de chrétiens, mon premier pasteur en particulier était vraiment quelqu'un qui vivait ça. Il vivait la réalité de la parole dans sa vie, qui lui parlait sans dire « si ça me parle à moi, ça te parlera à toi ». Il dit « cherche la réponse ». C'est au travers donc des témoignages de mon premier pasteur, des témoignages de John Cheryl, pour ceux qui ont déjà entendu parler de cet homme, qui a été surtout un éditeur qui a édité énormément de... et qui a réécrit les histoires. Par exemple, les histoires de Corrie ten Boom ont été écrites en général par, par John Cheryl. Et le témoignage d'Austin, de John Austin, eux, ils m'invitèrent à m'approcher autrement de la parole de Dieu, cette parole qui est vivante. J'ai eu à découvrir les moyens pratiques pour m'aider à trouver dans la parole une réponse à mes besoins quotidiens, puis pour trouver la réponse à des questions plus graves. Des choses qui sont rebelles, insolubles, depuis des années. En fait, c'est là où j'ai eu le plus de mal, c'est de rentrer dans ces champs de bataille. Et il fut un temps où, quand ma situation spirituelle se dégradait, je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait du flux et du reflux. Un peu comme la mer, vous savez, qui part, qui revient. Il y avait des marées basses, où on ne voyait pas où était la mer. Et puis il y a des marées hautes, où on avait l'impression que tout allait bien. Après le grand saut, c'est-à-dire après ma conversion, j'étais bien rentré dans la dimension chrétienne, mais c'était un petit peu par intermittence. Et la marche, après, c'était une affaire de toute ma vie. C'est durant cette marche que chacun d'entre nous, on a maille à partir avec sa propre nature. Donc, imaginons une situation. Vous êtes chez vous, vous devez prendre une décision quelconques, plutôt des décisions importantes. Est-ce que votre premier mouvement, est-ce que ça serait d'aborder la question dans une discussion ou dans la prière ? Posez-vous sincèrement la question. Quand vous avez une décision importante à prendre, est-ce que vous commencez par prier ou est-ce que vous commencez par discuter ? Comment ? Oui. Je sais que ce n'est pas toujours un réflexe qu'on a. On peut l'avoir, par exemple, à certains moments, et puis à d'autres, on peut dire, c'est mon domaine, quoi. Je discute d'abord. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu un symptôme de ce qu'on appelle la situation spirituelle. Dans quelle situation spirituelle je suis à ce moment-là ? Moi, je dirais, il y a une façon de voir quelle est notre situation spirituelle, c'est de voir quel rapport on entretient avec la parole de Dieu. Je reste volontairement uniquement là-dessus, même si je sais qu'il y a l'importance de la prière, l'importance de la louange et de tout le reste. Mais je dirais, quel rapport entretenez-vous avec la parole de Dieu ? Si vous ne la lisez pas tous les jours, par vous-même, c'est-à-dire pas par personne, par procuration, alors vous commencez tout de suite. Commencez tout de suite à lire tous les jours la parole. Le mieux, c'est de le faire avec un guide biblique, c'est-à-dire avec quelque chose qui permet de lire tous les jours un passage, commenter ou pas. Ce n'est pas ça le plus important. Dieu saura vous montrer là où tout à coup, il y a quelque chose qui vous concerne. Parce que on est un peu absurde. On a besoin tous les jours d'une dose de vitamines, d'un stock de vitamines. On a besoin tous les jours de sommeil. Essayez voir de ne pas dormir pendant 3 jours. On a besoin tous les jours d'un tonus musculaire, c'est-à-dire qu'on est obligé de bouger. Si on ne bouge pas pendant 3 jours, ceux qui ont déjà eu un bras dans le plâtre, ils savent ce que ça veut dire. Et nous, on se dit, bon, pendant 3, 4 jours, 8 jours, je peux me passer de lire la parole qui est une parole qui nous a été donnée par le Seigneur. Pas pour rien, pas juste pour les érudits, ceux qui savent l'étudier, à qui on va demander, tiens, qu'est-ce que tu as trouvé dans la parole, quelque chose qui me concerne ? Et je peux donner un exemple de quelqu'un que j'admirais beaucoup. Bon, il n'y a pas de grand musicien ici, mais quand je dis musicien classique, non, il y a quelqu'un qui fait de la musique classique. Arthur Rubinstein, ça vous dit quelque chose ? Oui, quand même, hein, il est bien connu. Arthur Rubinstein, c'est quelqu'un qui a aussi su parler. Il a su aussi dire des choses. C'était pas juste un... C'était un très grand pianiste, je pense un des meilleurs du XXe siècle. Et il a dit que s'il ne s'entraînait pas pendant une journée, entre parenthèses, il s'entraînait 7 heures par jour, et il avait fait ça depuis des décennies. Donc il disait que s'il ne s'entraînait pas pendant une journée, lui, il l'entendait. Et que s'il ne s'entraînait pas pendant 3 jours, c'est les autres qui l'entendraient. Bon, pas moi, hein. Mais d'autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et lui, son domaine exclusif, c'était le piano. Et Werner nous a expliqué dimanche dernier les conséquences. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, parce qu'il ne l'a pas dit en tant qu'exemple. Les conséquences du manque de pluie pendant 3 jours seulement. Moi, je ne pensais pas du tout, j'ai appris quelque chose, que 3 jours sans pluie sur les blés, bon, je dirais, ouais, c'est la nature, quoi. Ben non. S'il veut avoir un certain rendement, s'il veut avoir 3 jours, c'est beaucoup. Et c'est là qu'il nous a dit que pendant les jours où sa machine était en panne, sa pompe, la pluie est venue là de la direction de Guebwiller, enfin, c'est ce qu'il expliquait. Elle venait par là, sur cet angle sud-ouest. Donc, il nous suffit de 3 jours d'immobilité sans aucun exercice pour que nos muscles commencent à faiblir. Et bien, notre santé spirituelle, elle obéit aux mêmes lois. Notre santé spirituelle a besoin des vérités de Dieu. Si nous n'avons pas un contact intime avec la parole de Dieu, on sera affaibli en 3 jours. Que survienne alors un problème, on n'aura peut-être pas la force spirituelle pour l'affronter. C'est pourquoi je dis, entendez le Seigneur vous interpeller et vous parler au travers de sa parole. Même David, dans un des psaumes, je n'ai plus en tête dans quel psaume, dit à un moment donné qu'il s'était tu vis-à-vis de Dieu. Il avait fui, quoi. Parce qu'il y avait des choses trop lourdes, des choses qui se reprochaient à lui-même. Et qu'il avoue à la fin du psaume que si tout a été soulagé à partir du moment où il a parlé à Dieu. Quel que soit le problème, on peut parler à Dieu de ce qui nous arrive, de ce qui nous écrase. Comme le disait il y a 15 jours Nadine, Dieu est amour et cet amour est inconditionnel. Alors tout ça, je dirais pourquoi et on va où là? Et là, je vous proposerai de revenir à Ésaïe 54, 17. Et je fais une ellipse pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que nous disait Vito. Il y a une chose à ne pas oublier dans ce passage, c'est toi qui condamneras. Mais on condamnera quoi? Ben, la parole contient la vérité pour lutter contre les mensonges de Satan, parce que les mensonges de Satan sont à l'origine de la plupart de nos maux. Lorsque vous êtes assailli de sinistres pensées qui défilent, déferlent, je devrais dire en rang serré dans certaines situations, et que nous commençons à les croire, à les répéter, n'est-ce pas une attaque en règle, une arme utilisée contre nous? Qui peut dire qu'il n'a pas été submergé à un moment donné par les attaques dans ses pensées? Que ce soit à propos de la maladie, que ce soit à propos de n'importe quoi, à propos de la peur, à propos des ressources, à propos de mille choses. Alors revenez à Ésaïe 54, 17. Revenons, si vous le voulez bien, à Ésaïe 54, 17. Toute arme, toute langue... Avec la parole, vous pouvez arrêter... tout. Lorsqu'on répète à haute voix les mensonges distillés par l'ennemi de notre âme, nous donnons libre accès à la peur et au tourment. On en sait quelque chose dans le sozo, c'est pratiquement l'outil de base. Quand au contraire, on prend en compte les pensées de Dieu et ses promesses, quand on les exprime à haute voix par la foi, on entre dans la paix. Faites comme, je dirais, comme saint Thomas. Essayez. Mettez les doigts sur les blessures de Jésus. Il n'est pas mort pour qu'on ait juste une demi-vie. Il est dit, vous aurez la vie en abondance. Donc tous ceux qui ne sont pas dans une vie en abondance, et je me mets dans le lot à certains moments, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est quoi qui cloche? Je me rappelle quelqu'un de Bethel qui a dit une fois, si votre espérance ne brille pas, n'étincelle pas, c'est qu'il y a quelque part un mensonge. Waouh! J'aurais dû venir avec des lunettes de soleil alors. Vous voyez? Donc quelque part, on est appelé là à rentrer dans ce combat. Toi, finalement, prends ta Bible, prenez vos Bibles en main, ouvrez-les. Les pensées de Dieu sont là. Remplacez chaque pensée du diable par une pensée de Dieu. Le diable est menteur et père du mensonge, ne l'oubliez pas. Il est incapable de dire la vérité. Quel que soit le sujet, cherchez avec Dieu dans la parole ce qu'il dit à propos de ce qui vous concerne. Il saura, et ça, j'en ai fait l'expérience, il saura, par rapport à votre propre situation, aussi compliquée qu'elle soit, trouver la parole qui va faire quoi? Qui va annuler les pensées que l'ennemi a mis en vous et que vous avez acceptées. Aucune arme, aucune langue n'auront d'effet contre vous. Sauf si vous vous laissez faire. Et ça choque certains de dire, mais pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? Pourquoi est-ce que je peux me laisser faire? Vous ne voulez pas de la liberté? Vous êtes des pantins. Il y a des fils qui vous retiennent. À partir du moment où on devient chrétien, paf, il y a un fil qui monte et puis on devient un pantin. Non. On reste absolument libre. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire, chaque fois qu'une pensée n'est pas de Dieu, chercher une contre-pensée qui, elle, est de Dieu. Elle est où ? Dans la parole. C'est à nous de refuser cette pensée, c'est à nous de chasser Satan et son mensonge, et ça, c'est peut-être quelque chose de neuf pour certains, c'est que c'est à vous de le faire. Vous avez le pouvoir de vaincre l'ennemi en répliquant, et c'est Jésus qui nous a montré l'exemple quand il était dans le désert, il est écrit. Alors c'est pour ça que ça explique pourquoi. Alors ça, c'est celui que j'ai ouvert en 2010, parce qu'avant, les autres, c'était des trucs complètement abîmés. Et croyez-moi, je sais que je vais trouver le texte exact de la dernière lutte. Et je peux vous donner un exemple tout de suite de quelque chose qui est comment Dieu peut nous aider même dans quand on a des problèmes qui dont la réapparition périodique est prévisible. Ah, tiens, c'est bizarre, ça c'est quoi ? Bah, quelque chose dont vous savez que ça vous arrive. Quelque chose où vous avez un moment, comment pour dire, une impulsion. Ça peut être tout simplement de quand tout à coup on devient mauvaise langue ou quand tout à coup on a envie de boire un coup et puis que c'est pas sage. Alors le Seigneur a montré comment on pouvait même livrer la bataille à l'avance. Ça prouve à quel point il est incroyable dans sa révélation. Et le passage que j'ai choisi moi, parce qu'il m'est venu vraiment, on peut dire... dans une situation où je crie à Dieu pour dire « Seigneur, je retombe toujours dans les mêmes travers. » Et dans ces travers-là, je ne peux plus une fois... Vous savez, c'est comme quand vous êtes sur une pente glissante. Et à un moment donné, c'est trop tard, quoi. Vous êtes dans la pente, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et c'est ce que dit Josué en 24:15. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et donc là, le principe, c'est de dire... Si je vais dans des circonstances qui vont s'y prêter, je dis, Seigneur, je choisis maintenant, maintenant, que c'est toi que je veux servir et pas d'autres dieux. Et ça marche. Maintenant, n'attends pas donc que Jésus le fasse à ta place, il te dit de le faire toi-même. Comment vous avez le pouvoir de vaincre l'ennemi ? En citant les promesses de Dieu. Ce qui doit aussi nous amener à ce que toute pensée, dont on sait que c'est une pensée qui n'est pas de Dieu, qu'elle vienne captive à l'obéissance au Christ. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'amener cette pensée sous l'autorité de la parole de Dieu, c'est de dire je l'examine par rapport à la parole de Dieu. Et je dis non, cette pensée-là, elle ne vient pas de Dieu, donc je la réprime parce que dans la parole, il est dit que. C'est dans 2 Corinthiens 10, 5 qu'il est dit. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. C'est là qu'interviennent ces armes, ces vers, ces forces que le Seigneur m'a montrées dans la prière et par ma recherche de sa réponse dans les Écritures. Ce sont des épées. Rappelez-vous, dans Éphésiens 6, Je ne vais pas prendre le temps de relire ce passage, il est tellement connu. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 14, il est dit de se revêtir des armes de Dieu. Et dans ces armes de Dieu, à un moment donné, il y a les armes de protection, mais il y a aussi les armes offensives. Il y a de tenir l'épée de la parole. Vous croyez que l'épée de la parole, c'est juste de la tenir en l'air ? Non. Si on a l'épée de la parole, c'est bien pour trancher, si vous voulez, lutter contre, non pas contre la chair et le sang, mais lutter contre les forces, les pensées qui viennent de l'ennemi. Et c'est vrai que c'est notre initiative qui doit faire la différence, et c'est comme ça que vous avancerez par rapport à ce que l'ennemi, ce dont l'ennemi vous accable dans votre vie, quels que soient les soucis. Josué disait au peuple, et je terminerai par ça, vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, ainsi que les Amorites, les Périsites, les Cananéens, les Hittites, les Girgachites, etc. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous de grosses guêpes qui ont fait fuir les deux rois amorites. Vos lances et vos arcs n'y étaient pour rien. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties, mais vous y habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, mais vous mangez leurs fruits. Josué dit encore, respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Le service du Seigneur ne vous plaît pas. Alors, choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Et là, ce que nous dit Dieu, c'est quoi ? C'est ne soyez pas à cloche-pied en train de vous dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais servir Dieu ? Et dans ce cas-là, je dois le proclamer et prendre une décision. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de prendre une décision et de dire, Seigneur, c'est toi que je veux servir, mais je ne sais pas comment te servir, je ne sais pas comment faire pour lutter contre tout ce qui m'assaille. Et pour ça, j'ai la prière et j'ai la recherche de la vérité dans ta parole. Voilà à quoi sert la parole. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été donné comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Et pour vous, individuellement, vous pouvez recevoir de Dieu des illuminations, c'est-à-dire des choses qui tout à coup vous parlent, mais parce que vous les avez cherchées. Vous lirez des fois au début beaucoup de choses, et tout à coup, vous direz, voilà, cette chose-là, elle me parle par rapport à mon souci. Mais pour ça, il faut parler à Dieu. Il faut lui dire tout ce qui ne va pas. Il faut lui dire, voilà, j'ai tel travers, j'ai tel souci. Si vous n'apportez pas les soucis à Dieu, vous les apportez à qui ? On pourrait faire un colloque. On amène tous nos soucis, on les met sur un bout de papier, on les brûle au milieu. Mais vous croyez qu'ils vont disparaître ? Non. Par contre, je connais quelque chose qui peut les brûler et les faire disparaître. Parce que l'ennemi, lui, il n'arrête pas de nous assaillir. Donc, je peux relire avec plaisir ce qu'il est dit dans Ésaïe 54, 17. Je vais le lire dans deux autres versions. « Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est ainsi que je leur fais justice. Dieu a décidé de nous faire justice en nous donnant cette autorité. » Autre version, c'est la version Parole de vie, qui est plus récente. « Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. » Et comment tu peux prouver face au tribunal qu'il a tort ? En disant la vérité. D'accord ? Voilà. Donc je vous laisse sur cette exhortation. prenez quelques bouts de papier, puis dans quelques temps, vous pourrez le mettre dans un joli petit carnet, et notez-vous toutes les réponses que Dieu fait par rapport à vos demandes. Et utilisez ces paroles pour combattre. Et vous serez victorieux. La vérité est victorieuse. Toujours. Et vous pourrez renoncer à ces mensonges, tout simplement parce que vous exprimerez la vérité. Mais Dieu est fidèle, et c'est là son amour. Il va vous montrer dans la parole ce qui vous concerne de façon incroyable.